7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les familles monoparentales, on en parle. Quelles sont leurs difficultés? Comment s'en sortent-elles? En fait, ce sont des mamans solo à 85% en France. En France, on a près de 3 400 000 familles monoparentales qui sont concernées. Ce sont les familles les plus touchées par la pauvreté aussi. Mais y a-t-il pour autant une politique familiale à l'égard de ces parents-là? Avec nous, Christine Kelly, journaliste engagée. Vous êtes fondatrice de l'association Cas d'urgence. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous organisiez cette semaine à Paris une journée de réflexion et de partage sur ces familles monoparentales, leurs problèmes pour élever leurs enfants, échanger aussi sur la façon dont on se sent perçu par la société, par les institutions publiques aussi. Également avec nous Gisèle Tada, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieure, mère célibataire de 37 ans avec un petit garçon qui a quel âge maintenant ?
4 ans et demi.
Et vous l'avez élevé seule depuis presque le début ?
Oui, oui, tout à fait. Je me suis retrouvée seule un petit peu avec mon fils dès ma grossesse. Donc, je l'ai complètement élevé seule.
Vous allez nous raconter quels sont vos principaux problèmes, ce que vous attendriez aussi de la société, des pouvoirs publics. Et quant à vous, les voisines et les voisins, appelez-nous pour témoigner de votre quotidien si vous élevez seul votre enfant ou vos enfants. Notre numéro de téléphone, c'est le 33 1 84 22 71. 71, c'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp. Et bien sûr, les papas solos ont la parole, hein, même s'ils sont minoritaires. Et en fin d'émission, ce sera la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Je vous lis le message posté par une voisine, Sylvester, qui nous dit « J'ai été élevée par ma maman et j'ai vu comme elle a souffert, elle a tout assuré parce que mon père était un irresponsable. Je dois tout à ma maman. » Alexandre est à Bujumbura au Burundi, nous dit « Je suis un papa célibataire de 3 jeunes enfants. Nous sommes séparés pour des raisons ethniques. Je suis Burundais Tutsi, elle est Rwandaise d'origine Hutu. Et avec la crise dans mon pays, nous n'avions pas le choix. Ma fille est née à 6 ans. C'est très difficile à gérer, nous dit Alexandre. Quand mes enfants me demandent où est leur mère, je suis obligée de mentir. Je leur dis qu'elle est à l'étranger, qu'elle reviendra. Quand je leur offre des cadeaux, je leur dis que c'est leur mère qui les a envoyés. Je crains que mes enfants ne découvrent la vérité. Quand dois-je leur dire la vérité ? Christine Kelly, comment vous réagissez à cette question-là sur effectivement la famille monoparentale pour des raisons X ou Y a souvent une histoire un peu compliquée à raconter à un enfant de 6 ans ?
Alors déjà, pour moi, un enfant, on lui dit tout de suite la vérité, quel que soit son âge, même s'il vient de naître. Ma fille, je l'ai adoptée à la naissance. Encore avec le cordon ombilical accroché au ventre de la mère, je lui ai tout de suite raconté son histoire, les premiers mots. Et je trouve que c'est très important, quel que soit l'âge de l'enfant, de lui dire tout de suite son histoire et de lui dire la vérité. L'enfant est prêt à comprendre, à accepter, mais l'enfant ne pardonnera jamais qu'on lui a caché, qu'on lui a menti, même si parfois c'est pour le protéger. Donc ça, c'est déjà mon conseil, comme ça a priori. Après, les gens font évidemment ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que les conditions des familles monoparentales peuvent être extrêmement difficiles, différentes, et il faut à chaque fois les appréhender avec le cœur le plus large possible.
Et vous, Gisèle Tada, qu'est-ce que vous dites à votre petit garçon de 4 ans et demi ?
C'est vrai, quand il était un peu plus petit, bon, ça, c'était mieux, mais dès qu'il a commencé à parler, ben, je lui ai expliqué que j'étais pas avec son papa parce qu'il commençait à me poser des questions. Mmh. Il voyait ses amis, que ce soit à la crèche ou
pourquoi
à l'école maternelle. Il disait pourquoi j'ai pas de papa. Je lui dis si, t'en as un. Quand j'étais enceinte, il était là, mais par la suite, on a eu des disputes, ça marchait plus très bien. Donc, du coup, il est parti de son côté, moi je suis restée de mon côté. Donc, je lui ai expliqué aussi que ça veut pas dire forcément que son papa il aime pas, ou qu'il sera pas peut-être présent plus tard pour lui, mais pour l'instant la situation est comme ça et qu'il devait l'accepter et qu'on essaie de vivre avec.
On parle des familles monoparentales aujourd'hui, qu'il s'agisse de papa solo, de maman solo. Bien souvent ce sont des mamans solo. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille une voisine qui nous appelle d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Rama.
Bonjour.
Soyez la bienvenue.
Bonjour, 7 milliards de voisins. Merci.
Vous êtes en direct avec nous. Alors, vous, quelle est votre situation, Rama? Racontez-nous.
Moi, j'ai deux garçons. J'ai deux enfants. Le premier, il a 7 ans. J'ai un garçon. Et la deuxième, elle a 3 ans.
Donc, deux enfants, 7 et 3 ans.
Oui. Je suis seule, mère seule avec les enfants. C'est compliqué. C'est comme souvent, je suis obligée de compter sur ma maman qui m'aide beaucoup. Elle joue le rôle de père, au fait. Moi, je joue la rôle de mère et puis elle joue la rôle de père.
Vous avez eu ces deux enfants, Rama, de deux papas différents. Vous avez des contacts avec eux ou pas du tout?
Souvent, le premier, pas du tout. Souvent, il appelle, il met des conditions pour pouvoir voir les enfants. Il veut, moi, me voir d'abord avant de voir le garçon.
Ah, il vous fait du chantage.
Ouais, il dit, il veut me voir. Je dis, mais ton fils, il est là. Il dit, donc. Si je dois avoir son fils, il faut qu'il me voie aussi en même temps. Tant moi, je ne veux pas avoir de contact avec lui.
Moi, ça me fait résonance.
Ah oui, c'est compliqué ça alors. Et en même temps, vous ne voulez pas priver votre enfant d'une visite paternelle.
Non, mais il peut promettre sur un mois, je viens aujourd'hui, je viens demain, je viens après-demain, et puis il ne vient pas. Finalement, son fils dit, mais mon papa, il ment beaucoup. Il dit, ah, laisse-le, c'est pas grave.
Eh oui, mon papa, il ment beaucoup. Et matériellement, comment vous vous en sortez, Rama? Votre maman vous aide? Vous êtes couturière?
Oui, elle m'aide à la maison, elle reste avec les enfants, avec la mini. C'est elle qui est tout avec eux. Moi, je suis sortie matin 7h. Je rentre souvent à 22h.
De 7h à 22h, vous n'êtes pas à la maison, alors, Rama?
Oui, je ne suis pas à la maison. Et vous... Mais dimanche, j'ai fait l'effort de rester toute la journée avec eux.
Et vous le disiez, en fait, c'est votre maman, donc la grand-mère de vos enfants, qui fait office de papa.
Oui.
De papa poule, alors.
Oui.
Quels sont...
Un peu dur aussi. Hein. C'est moi qui joue la maman poule.
Ah oui, vous avez le beau rôle le dimanche et c'est votre maman qui distribue les punitions, les choses quand ça se passe pas bien. Mais qu'est-ce qui est le plus dur pour vous, Rama, affectivement, matériellement?
Matériellement, je suis obligée de me casser en deux pour eux, l'école, la santé, les... Tout, c'est moi.
Pour tout payer.
Tout payer. Je ne peux pas compter sur eux, en fait. Souvent, je déprime et puis je me dis, je ne peux pas poser mon épaule sur les pères, en fait. Donc, c'est compliqué.
Vous avez songé, Rama, à retrouver une autre relation sentimentale qui pourrait apporter de la stabilité et jouer un rôle de père avec vos enfants?
Ça, j'ai voulu faire ça avec le père de la deuxième, en fait. Après, ça n'a pas marché, donc je me retrouve avec deux enfants, encore de suite. Mais là, je n'ose pas vraiment.
Vous avez peur de l'échec ou pourquoi vous n'osez pas?
Un moment, j'avais essayé, mais j'ai eu un échec, j'ai eu très mal tout ça, donc là, je n'ose plus. Je me dis souvent, j'en ai besoin, mais je n'ose plus.
C'est aussi une question de fatigue, de manque d'énergie?
Oui.
Oui, il faut de l'énergie pour retrouver un compagnon et pour se projeter dans une autre vie. Merci beaucoup à vous de nous avoir appelés, Rama. Christine Kelly, ce genre d'histoire, vous en connaissez beaucoup?
Oui, absolument. Rama, elle entre vraiment dans le cadre d'une famille monoparentale classique. Et là, on voit bien, 7h, 22h, elle fait le papa, la maman. C'est-à-dire qu'elle doit faire certainement double travail, double emploi, pour avoir deux fiches de paye en une, deux boulots en un. Donc, double absence et en même temps, double présence, parce qu'il faut qu'elle soit présente à son travail, présente avec ses enfants. Heureusement qu'elle a sa mère, mais combien n'ont pas leur mère? Et heureusement qu'elle a sa mère de temps en temps, heureusement qu'elle est consciente que le dimanche, il faut qu'elle passe quand même un peu de temps avec les enfants. Mais la culpabilité, on le sent derrière ces mots. On le sent, ça, la culpabilité de son absence. Et elle n'a pas le choix parce qu'il faut qu'elle aille travailler du matin au soir, du soir au matin pour pouvoir subvenir aux besoins financiers. Et on sent derrière aussi non seulement les problèmes économiques, les problèmes psychologiques, les problèmes sentimentaux, les problèmes d'affection, les problèmes du regard de l'enfant. Que pense l'enfant du père? Que pense l'enfant de la mère? Et tout ça, ça fait beaucoup pour une petite maman.
Vous avez organisé, Christine Kelly, la 6e édition de la journée K cette semaine. C'est relié à votre association K d'urgence. Pourquoi une journée qui est consacrée aux familles monoparentales?
Premièrement, parce qu'elle n'existait pas. Deuxièmement, parce qu'on se voile la face dans le monde entier pour se dire, on se dit que on ne les remarque pas. elles sont dans le silence. J'ai fait un livre sur une enquête sur les familles monoparentales que j'ai appelé le scandale du silence, parce qu'elles souffrent en silence et on croit tellement qu'elles n'ont pas besoin d'aide parce qu'elles sont dans le silence, elles n'ont pas le temps de crier. Et la réalité, c'est qu'on est capable de citer autour de soi 4, 5, 6, 7, 10 personnes qui ont été ou qui sont en famille monoparentale et pas 10 membres du gouvernement. Et ça, je fais tout le temps le test. C'est-à-dire que les familles monoparentales, on en a partout autour de nous et elles ont besoin d'aide. Alors j'ai commencé effectivement à regarder mes amis, mes copines, mes voisines et je vois que tout le monde est passé par cette case-là ou bien est dans cette case-là, quelle que soit la couche sociale.
Cette journée, c'était de partager, parce qu'on est moins seul aussi quand on partage, mais d'apporter des solutions, du partage d'expériences, des réponses concrètes à des problèmes qui sont très nombreux et qui reviennent en permanence.
Tout à fait. Donc, partir du constat, qui est autour de moi, qui a besoin de quoi, et effectivement, de quoi concrètement.
Donc, il y avait des avocats, des assistants sociaux, voilà, des huissiers, des représentants de la caisse d'allocation familiale, puisque là, c'était une journée qui était organisée en France, des représentants de Pôle emploi aussi.
Voilà, donc j'ai fait un sondage pour savoir de quoi elles ont besoin, après avoir fait le constat autour de moi. Et elles m'ont dit qu'elles ont besoin de ressources, elles ont besoin d'aide juridique, elles ont besoin, elles m'ont fait la liste de leurs besoins. Et en fonction de la liste, c'est à ce moment-là que j'ai créé la journée. Avec avocat, huissier de justice, psychologue, des débats, du maquillage, des stands de maquillage de Pôle emploi.
Stands de maquillage.
Stands de maquillage pour le stand estime de soi. J'aime bien parce qu'elle sourit, mais elle nous dira effectivement ce que c'est important. Alors au départ, pour moi, c'était pas important, mais pour les mamans, c'était terriblement important. Elle pleurait à ce stand-là, ou bien elle reculait devant le stand parce qu'elle n'arrivait pas à faire face à elle-même et à leur image, parce qu'elle s'oublie elle-même.
En fait, on oublie toute la partie coquetterie, on va dire ça.
Parce qu'on court tout le temps.
Toujours en train de courir le matin, le soir. Et d'ailleurs, je remercie Mme Kelly pour cette journée, parce que pour moi, ça a vraiment été une très belle journée, parce que ça a permis d'ouvrir le débat là-dessus. Et c'est vrai qu'autour de nous, même quand on n'a pas, on parle aux gens, par exemple aux voisins qui ne sont pas forcément dans cette situation-là, ils ne comprennent pas forcément, ça ne leur fait pas forcément écho. Donc de se retrouver effectivement avec des mères qui sont des personnes qui sont dans la même situation, ça permet effectivement d'apporter des solutions et de pouvoir vraiment discuter et voir comment avancer.
Alors aujourd'hui, on ne peut pas non plus dire que ça soit un tabou, c'est bien plus pernicieux que cela. Le nombre de familles monoparentales continue d'augmenter. J'ai donné un chiffre en début d'émission qui n'est pas tout à fait exact. C'est 3 400 000 enfants qui vivent dans des familles monoparentales et c'est presque 2 millions de familles qui sont monoparentales, c'est bien ça, hein, Christine?
Exactement.
Oui. À 82%, 85% des mères célibataires qui peuvent être divorcées.
Alors, effectivement, sur les familles monoparentales, 85% sont des femmes, 15% sont des hommes. Et c'est vrai qu'on est loin des clichés, parce qu'on croit qu'effectivement, elles ont décidé de faire un enfant seul. Eh ben non, à 74%, elles sont dans le cas de Gisèle, c'est-à-dire qu'elles étaient à deux et elles se sont retrouvées seules. 15%, elles ont décidé de faire un enfant seul et 11% issues du veuvage. Donc on a quand même 85% qui subissent la monoparentalité.
Parce que souvent la monoparentalité ça s'accompagne aussi d'un sentiment d'une douleur en fait, parce que c'est pas très simple.
Vous nous appelez si vous êtes maman solo, papa solo, on attend bien sûr vos témoignages. Partagez 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp.
Désolé maman, ce texte sera pas pour toi. Je suis discret en vrai, mais en musique il faut que je parle. Sa voix vibrait dans mon oreille quand j'étais dans ses bras. Les chansons à la guitare, les bisous avec la barbe. Il parle de l'époque du lycée, avec mélancolie. Je m'endormais sur le canapé, je me réveillais dans mon lit. Il m'a laissé veiller devant les films que j'aimais bien. Il m'engueule jamais, le pire c'est quand il dit rien. On fait des matchs et je prie pour que ça dure. Il prend de l'âge, je l'ai lu dans ses courbatures. Et j'en tremble quand on se fâche par moments. Plus ensemble, mais il demande toujours pour maman. Il m'a transmis son charme et sa poésie. Mais j'ai aussi hérité de sa calvitie. C'est mon idole, avec lui rien n'est impossible. C'est un peu mon avocat, mon cuistot, mon taxi. Ses histoires et ses blagues quand il picole. Ses vieux pulls et ses chemises à auréoles. Maintenant c'est bon et bêtement on en rigole. Mais j'étais con et j'avais honte devant l'école. L'odeur du café le matin, la voiture, les souvenirs. Les au revoir, les câlins, ses blessures, ses soupirs. Ce sera toujours mon père et je reste son gamin. Et quand j'en aurai un, je lui parlerai du mien. Celle-là c'est pour nos pères, nos padres. Ceux qui disent je t'aime sans même parler. Ce qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait. Celle-là c'est pour nos pères, nos padres. Ceux qui disent je t'aime sans même parler. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait.
Y ya sé que soy viejo, nunca te olvidaré. Cuando miro al espejo, son mis hijos que veo. me acuerdo del mío. Y cuando se fue, aprendí que en la vida no vale más que papá, 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 papá.
C'est Big Flo et Oli, papa chez 7 milliards de voisins. On parle des familles monoparentales. On ne va pas stigmatiser les papas non plus, parce qu'il y a bien 15% de papas solo en France. Vous le disiez, Christine Kelly.
Absolument.
Vous êtes la présidente de l'association Cas d'urgence. Et il y a eu cette 6e édition de la journée Cas cette semaine, entièrement consacrée aux familles monoparentales. Donc à 85% des femmes, et le reste, ce sont des papas solo.
Qui revendiquent en plus leur existence, c'est vrai, comme vous dites.
Qui revendiquent et qui veulent eux aussi être écoutés, d'ailleurs. Et c'est tout à fait normal. Le nombre a énormément augmenté en France, mais pas seulement, un peu partout. Alors c'est vrai que ça n'est plus un tabou. Néanmoins, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de souffrances, beaucoup de gens qui ont envie de témoigner. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Gisèle Tada, j'aimerais que vous nous expliquiez quelle est votre situation et quelle a été votre histoire. Donc vous êtes ingénieure, vous êtes mère célibataire de 37 ans avec un petit garçon de 4 ans et demi.
Oui, tout à
Le
fait.
Papa est parti pendant votre grossesse.
Oui, tout hein. à fait.
Et donc vous vous êtes dépourvuillée seule ?
Oui. C'est vrai que dans un premier temps, j'étais un petit peu en état de choc, mais rapidement, ma famille un petit peu a pris le relais. Et donc, j'avais quand même de l'accompagnement. Donc, j'ai eu jusqu'à la naissance, jusqu'à ce qu'il ait à peu près 2 ans, 3 ans. Ma famille était pas mal quand même derrière pour pouvoir faire le relais et me permettre quand même de souffler.
C'est ça. Donc, et après, ensuite,
voilà, dès qu'il a repris l'école, par contre, ça a été autre chose. Parce que là, c'était la course tous les jours, quoi, parce que faut partir très tôt, faut rentrer, essayer de rentrer assez tôt. Et c'est vrai que par rapport après à votre charge de travail, telle que les miens, moi j'ai des responsabilités au niveau direction. Du coup, c'était assez compliqué parce que les gens, bon, on estimait un petit peu, bon, ça venait pas de l'entreprise en elle-même, parce qu'il y avait toute une charte éthique qui était faite autour de ça. Donc ça va au niveau des ressources humaines, ça allait, mais c'était plus vraiment les collègues qui travaillaient directement avec vous. Ils trouvaient en fait que, à chaque fois, souvent ce qui m'était ressorti, c'est que tu n'es jamais là. Et je leur demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être jamais là? Parce que je fais bien mes 9h, 18h, comme c'est demandé.
Après, c'est votre étiquette de mère célibataire.
Voilà, donc en fait, quand vous mettez vos réunions à 8h30 ou après 18h, effectivement, moi, je ne peux pas rester. Et ça, c'est des choses que j'ai déjà précisées. Et du coup, c'est là qu'on a commencé à voir un petit peu qu'il y avait un problème. Donc, il y avait des questions qui se posaient. Après, tiens, est-ce que tu as un conjoint? Alors, comment ça se passe? Et puis, quand on répond, et puis on dit, ah oui, ça, c'était évident. Vu qu'elle part tout le temps,
elle n'est pas là. Mais du coup, ça déclenche une forme de compassion, d'admiration aussi.
Oui, tout à fait,
Ou une indifférence.
Il y en a pour certains, c'était une admiration, mais il y en a d'autres, c'était vraiment pour eux quelque chose de... C'était chiant, quoi. Parce que j'ai eu des remarques. Voilà, j'ai eu des remarques le matin. Bon, bah, Gisèle, écoute, la réunion, elle commence à 9h. Si t'arrives à 9h30, vaut mieux attendre la prochaine, quoi. Donc, c'est un peu...
Restez avec nous, Gisèle, bien sûr, on va donner la parole.
Intervenir quand même dans la réunion, donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe?
Vous êtes nombreuses à vouloir témoigner au 33 1 84 22 71 71. On accueille une voisine, Michel, qui est à Hyères. Bonjour Michel.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes dans le sud de la France.
Oui.
Alors, vous êtes dans une situation, si j'ai bien compris, enfin, sur le papier, vous n'êtes pas tout à fait famille monoparentale, parce que votre enfant est en garde alternée, c'est bien ça?
C'est ça, j'ai 2 enfants, ils sont... En garde alternée.
2 et 5 ans, hein, donc ils sont vraiment petits.
Voilà.
Et pourtant, vous nous appelez, vous vous sentez mère célibataire?
Oui, parce que finalement, je n'ai pas de famille en France. Et puis, quand j'ai mes enfants, je cours partout pour l'école, la nounou. Et puis, pour rentrer à la maison, faire à manger, tout ça. Et j'ai une semaine où je ne les ai pas. Où je n'ai pas de but, même si je travaille, je ne sais pas qui je suis cette semaine-là.
Ah oui.
Je suis assez perdue.
Oui, vous avez l'impression d'être dans le vide.
Voilà, dans le vide. À côté de ça, on n'a pas trop d'accompagnement psychologique parce qu'on est émotionnellement pas très bien.
Parce que ça ne se passe pas bien avec votre ex-mari, hein, je crois.
Pas du tout. Il n'y a aucun moyen de dialogue. parce que séparation très difficile, on s'est beaucoup déchiré. Donc, même pour les enfants, il y a des blocages.
Donc, matériellement, vous parvenez à faire face parce que ce n'est qu'une semaine sur deux, mais c'est psychiquement que c'est difficile, en fait.
Matériellement, non.
C'est compliqué aussi?
Parce que, oui, je suis à mi-temps pour pouvoir profiter de mes petits.
C'est souvent ça.
Et puis, la CAF ne suit pas.
Les allocations familiales.
Ils sont divisés par deux et toutes les aides liées aux enfants sont versées au papa parce qu'ils me disent qu'on est en conflit.
Donc c'est le papa qui touche les aides sociales.
Voilà, c'est le papa qui touche les aides sociales et au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas droit aux APL.
Les allocations à logement. Donc, et du coup, le conflit entre vous et votre ex-conjoint, c'est aussi sur l'aide sociale, c'est un conflit financier également.
À la base, la séparation est liée à l'argent. Donc,
oui,
c'est assez compliqué.
Christine Kelly.
Oui, je dis que c'est ça la grande difficulté. Bonjour madame. La grande difficulté, c'est que lorsqu'il y a séparation, souvent, on est déjà en conflit avec le conjoint. Donc, on doit faire face au conflit, faire face à l'enfant, faire face à l'ex-mari, faire face à la situation. Et effectivement, comme vous, on se retrouve à mi-temps, alors qu'au contraire, on devait avoir un double, un triple temps pour pouvoir un triple salaire. Et on se retrouve à la moitié du salaire. Et vous, madame, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à profiter du moment où vous n'avez pas vos enfants?
Parce que moralement, je ne suis pas bien, psychiquement, je ne suis pas bien. C'est mon moteur.
Ouais.
S'ils ne sont pas là, je ne sais pas quoi faire.
Vous vous sentez mieux avec vos enfants, même si c'est sûrement très difficile en termes d'emploi du temps.
Ça.
Parce que vous avez besoin de leur affection.
Oui.
Merci beaucoup, Michel, de nous avoir appelés. Bon courage, en tout cas. Vos témoignages à toutes, d'ailleurs, forcent l'admiration. On a d'autres appels. Sandrine nous appelle de Paris. Je vous rappelle à tous et toutes notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Bonjour, Sandrine.
Bonjour.
Quelle est votre situation, Sandrine?
Alors moi, c'est très différent de la personne précédente. Moi, parce que mon mari est mort, en fait, le papa de ma fille est décédé il y a 5 ans.
Oui.
Et du coup, je suis vraiment seule, complètement seule à l'élever. Je dirais presque que moi, j'ai tendance parfois à envier les divorcés qui peuvent souffler un week-end sur deux ou une semaine sur deux. Moi, je souffle quasiment jamais, en fait.
Votre fille a 9 ans aujourd'hui.
Voilà, c'est ça.
Et personne pour vous aider autour de vous?
En fait, ma famille est plutôt en province, donc effectivement, sur place, je dois me débrouiller, même si elle grandit et elle va de plus en plus souvent chez des copines, des choses comme ça, j'arrive quand même à m'aménager du temps, mais c'est vrai que c'est au quotidien, je suis quand même toute seule.
Est-ce qu'il y a, vous avez moyen d'avoir une aide psychologique?
Oui, tout à fait, moi je me suis beaucoup fait aider, je continue parce que je suis régulièrement... un peu dans une sorte de burn-out maternel. Burn-out, c'est peut-être un peu fort, mais c'est vrai.
C'est
que
complètement ça.
Et d'autant plus qu'elle a eu des problèmes de santé. Que
votre
fille. Gérée seule. Voilà, elle s'est fait opérer à un an et demi d'intervalle, deux fois de suite. Là, la dernière fois, c'était au printemps. Et donc, ça, c'est difficile aussi de gérer ça toute seule.
Donc, vous vous sentez dans un état d'épuisement permanent, en fait, avec l'émotion à fleur de peau.
Permanent, non, c'est par cycle, en fait.
Et en ce moment, ça va comment, Sandrine?
En ce moment, c'est dur, je crois que ça s'entend.
Oui, ça s'entend. Ouais. Mais il faut savoir, Christina, en ligne, moi, ça fait 8 ans que je m'occupe des familles monoparentales et je dis tout le temps qu'il faut savoir pleurer, il faut savoir tomber, accepter de tomber, déprimer et remonter sur le cheval et repartir au combat. Tomber 10 fois, 12 fois, 20 fois, pleurer, déprimer, à 3 heures du matin, l'enfant est couché, c'est là qu'on pleure, mais le lendemain, on repart au combat. Et il faut s'autoriser, effectivement, le fait de souffrir, de pleurer, mais pour mieux repartir. Et ne pas rester isolé, il faut rompre l'isolement, toujours chercher à avoir, exactement comme vous le faites, des amis, des gens avec qui partager, échanger, et surtout savoir que vous n'êtes pas seul. Il y a des sites internet où on peut en trouver, je crois que parlerensolo.fr, je ne sais pas s'ils existent encore, mais il y a des sites internet où on peut discuter avec des familles. Il faut absolument échanger, parce que les femmes qui sont comme vous, il y en a beaucoup, et qui dépriment. Donc, elles s'entrecouragent, il faut s'entrecourager pour repartir au combat, ne serait-ce que pour votre enfant.
En principe, on dit souvent que des mamans seules ont réussi à tisser des relations d'amitié qui sont solides avec d'autres femmes qui sont seules, et que ça donne des amitiés qui sont parfois plus fortes, hein, oui. parce qu'on en a besoin.
On vit la même chose.
Ouais, Gisèle, c'est votre cas ou pas, vous ?
Oui, tout à fait.
Vous avez copines sur qui vous pouvez fondamentalement compter ?
J'ai des copines, et j'ai aussi quelques mères, en fait, des camarades de classe de mon fils, des voisines, donc ça m'a permis un petit peu de tenir. Mais il est vrai aussi que j'ai fait un travail sur moi. Je suis passée quand même par des psychologues, et derrière ça, j'ai fait aussi tout ce qui était développement personnel, hein, et pour reprendre un petit peu confiance en moi, et aussi pas mal de méditation. Et ça m'a vraiment aidé à pouvoir me recentrer et avancer. Donc ça m'a vraiment sorti de là au niveau mentalement, et j'ai aussi changé mon alimentation. Donc il y a quand même je suis dans toute une phase où j'essaie de trouver, de faire les choses pour aller vraiment mieux, et j'ai vu que ça allait mieux pour moi et aussi pour mon fils.
Qu'est-ce que vous diriez à Sandrine alors, justement, avec ça?
Il faut vraiment qu'elle travaille un petit peu ce côté-là, quitte à ce qu'elle puisse prendre je sais pas un psychologue ou un coach qui puisse vraiment l'accompagner un petit peu dans la partie développement personnel, pouvoir travailler sur ses souffrances, hein, pouvoir travailler aussi sur son sentiment de culpabilité et autres, hein, parce que c'est très important, parce que c'est vrai que quand on se retrouve seul, il y a beaucoup ça qui remonte, hein. Donc une fois que ça, vous avez travaillé dessus, vous pouvez après reprendre confiance en vous,
Sandrine,
et vous estimer.
Vous avez dit également au standard, Sandrine, qu'il y avait aussi un problème avec le regard des autres.
Oui, en fait, effectivement, je sais que les familles monoparentales sont très nombreuses, et j'en ai quelques-unes dans mon entourage. Mais ma situation de veuvage est assez quand même minoritaire. Et j'ai quasiment jamais rencontré de femmes dans ma situation, veuves, isolées, etc. Et puis le regard des autres, c'est effectivement d'être entourée de familles avec un papa et une maman.
Oui.
Ce qui est quand même la norme, hein, quoi qu'on dise. Ça, c'est assez difficile. Je vois là, pour la fête des pères qui approche, à la médiathèque, il y avait tout un tas de livres qui étaient sortis pour les papas. Mais il n'y avait aucun livre sur la mort du papa, par exemple.
Bien sûr.
Parce qu'effectivement, c'est assez rare, heureusement, et ça reste un petit peu tabou, en fait.
Oui, c'est vrai, ce qu'on disait, c'était 11% qui sont issus du veuvage, et vous n'êtes pas beaucoup, hein, c'est vrai que...
Et c'est vrai que
le regard... 2 millions de familles monoparentales.
Voilà, et le regard des autres est toujours extrêmement pesant. Moi, l'autre jour, j'avais fait une conférence aussi pour des familles monoparentales sur la surcharge mentale, parce que j'ai dit tout le temps qu'elles sont en surcharge mentale permanente, et de planifier, parce que ça aide beaucoup de planifier. On se dit, par exemple, le samedi, tous les samedis, de telle heure à telle heure, je m'occupe de la maison, et pendant le reste de la semaine, je m'occupe pas de la maison, et oser ne pas le faire.
Installer des routines libérer un peu
pour
la charge
libérer
mentale.
La tête, voilà. Se libérer exactement la charge mentale.
Et se libérer aussi parfois de la culpabilité, d'ailleurs.
Et de la culpabilité, bien sûr. Et la culpabilité, savoir se dire que voilà, que il y a des moments où on va plonger, et il y a des moments où il faut repartir au combat, et se dire qu'on n'est pas seul, et qu'il faut avancer malgré tout pour son enfant. Mais j'en ramasse beaucoup, si vous permettez l'expression, au téléphone pendant des heures, qui sont en tentative de suicide, qui ont pris des médicaments, qui sont justement hospitalisés parce qu'elles n'en peuvent plus. Je connais beaucoup de femmes aussi qui sont seules à élever l'enfant, comme elle dit. Mais c'est la maman qui est malade, il n'y a personne pour garder l'enfant. Elle arrive aux urgences à 2h du matin, on lui dit « Madame, retournez chez vous parce que vous ne pouvez pas venir aux urgences avec votre enfant », etc. Donc elle est aux urgences, elle va rentrer chez elle à souffrir toute la nuit parce qu'il n'y a personne pour garder l'enfant.
Et puis il y a aussi une inquiétude des familles monoparentales qui le disent dans les témoignages, c'est « s'il m'arrive quelque chose, que devient mon enfant ?»
Mais ça, c'est l'angoisse permanente, l'angoisse perpétuelle. perpétuel, matin, midi, soir, etc. Se demander, mais qu'est-ce qu'on
il
va faire ?
Il faut absolument que je tienne, que je reste
que
debout.
Que je tienne, que je reste debout et que je n'ai pas la grippe. Parce que j'ai une grippe ou j'ai une fièvre de 40 degrés, mais qui s'occupe de mon enfant ? Mais comment est-ce que je vais faire ? Qui va cuisiner ? Qui l'emmènera à l'école ? Personne.
Oui, et quand on n'a pas le moral, c'est pas facile non plus de tisser des liens de solidarité et de se faire un groupe de bonnes copines, hein, parce que les copines, elles aiment bien voir des filles en forme et pas des filles qui sont effectivement au bout du rouleau. Merci beaucoup Sandrine de nous avoir appelé. Ouais, on vous souhaite vraiment bon courage et vous allez remonter la pente, c'est sûr. Je pense que vous avez entendu plein de conseils et vous avez surtout entendu que vous n'étiez pas seule. 33 1 84 22 71 71. Nous prenons d'autres appels. On parle des familles monoparentales aujourd'hui.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Jean-Gustave nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Jean-Gustave.
Ah bonjour.
Vous êtes à Yaoundé au Cameroun.
Oui.
Alors vous élevez votre fille tout seul depuis l'âge de 6 mois.
Oui.
On vous écoute Jean-Gustave. Vous êtes en direct.
Oui, bon. Mon histoire un peu comme votre invité. D'ailleurs, avant la naissance même de ma fille, on était déjà séparés. Et lorsqu'elle est née, on s'est arrangé. Parce qu'avant, on s'est arrangé que je devais prendre l'enfant. Et c'est comme ça que je l'ai pris, on l'a fait, vrai.
C'est-à-dire que la maman ne voulait pas garder le bébé, hein, c'est bien cela?
Oui, elle voulait même se faire avorter.
Ah, et vous vouliez un enfant?
Ok.
Ok.
C'est ainsi. Et alors, je l'ai vraiment élevé moi-même. Là, il faisait tout, et même mon emploi du temps était par rapport à ma fille.
Elle a quel âge aujourd'hui, votre fille?
Elle a 19 ans.
Waouh.
Et elle s'en sort très bien, parce qu'elle a eu le bac à 15 ans.
Mmh.
Et on est toujours ensemble. Même quand j'allais en voyage, en mission, j'allais avec elle, parce qu'on ne voulait pas la confier aux gens.
Mmh. Ah, et d'accord.
Très bien.
Et si, c'est un peu bizarre parce que partout où j'allais, j'étais tué avec ma fille et tout
c'est
le monde
le vrai papa
posait vraiment la question.
Moi, mais oui, mais qui est-elle? Oui.
C'est ma canne, il est toujours avec
c'est
moi,
ça.
C'est vraiment bizarre.
Ah, vous aussi, votre fils, c'est pareil, vous ne le quittez pas, vous ne le lâchez
même
pas.
Même quand j'ai un rendez-vous, il est avec moi.
Partout, nous dit Jean-Gustave.
Et c'est vrai qu'on n'a pas confiance, effectivement. Hein,
donc ça veut dire, Jean-Gustave, si j'ai bien compris, en filigrane dans votre histoire, c'est que vous n'avez pas refait votre vie.
Non, non. Non, vraiment, j'ai...
C'est rare.
Hein. J'ai eu quand même pour modèle mon père, parce que mon père aussi a divorcé avec ma mère et il nous a élevés à deux, ma soeur et
ah,
moi.
Oui.
Ma soeur avec moi.
C'est rare.
Hein. Et moi, j'avais 2 ans et demi.
D'accord.
Si bien que s'il a réussi, je me suis dit, moi, j'aime qu'une seule fille, toi aussi. Et vraiment, comme mon père a fait, c'est comme ça que j'ai fait aussi.
Donc c'est une tradition dans la famille, alors les mamans qui se font la malle, alors. C'est ça. Et puis avec des papas qui assurent.
Si, si, si. Parce que chez nous, l'enfant est passé. Donc, on pouvait vraiment garder les enfants très bien.
Le
meilleur moment que j'ai passé, c'est avec mon père.
C'est ça, bien sûr. Et donc, probablement que votre fille a sûrement été aussi extrêmement heureuse. C'est 19 années.
On est des meilleurs amis.
C'est ça, les meilleurs amis. Le papa poule et la fille ultra brillante de ce que vous décrivez. C'est 19 années quand même. Ça n'a pas dû être simple. Hein. Logistiquement, matériellement parlant, qu'est-ce que vous pourriez lancer comme message à d'autres papas solo, peut-être, qui nous écoutent?
C'est-à-dire d'être présent, toujours présent. Et parce que c'est ce que j'ai toujours été avec ma fille. C'est-à-dire ne pas laisser les enfants chez d'autres. Parce que d'autres ne pourront pas garder l'enfant comme vous-même, sincèrement. Et communiquer. Parce que je communique beaucoup avec ma fille. Nous courons.
Mais Jean-Gustave, comment vous avez fait? Jean-Gustave, comment vous avez fait pour nourrir votre fille, c'est-à-dire lui donner, travailler et en même temps être présent?
Oui. Donc bon, quand elle a commencé à fréquenter, je l'ai mis dans une école où il y avait une cantine. Et on allait là-bas, on déjeunait ensemble dans son école.
Ah, vous alliez à l'école pour déjeuner avec votre fille?
Oui, oui.
Ah oui?
Là, j'avais payé pour toute l'année pour elle, et moi je payais quand je devais déjeuner avec elle.
Ah, d'accord.
Oui. Et le soir, c'est moi qui cuisinais quand on rentrait à la maison. Et je m'organisais vraiment.
Et c'était quoi votre boulot?
Votre boulot ingénieur.
Ingénieur. Vous aviez suffisamment de flexibilité dans votre emploi, hein, de ce que je comprends. Bravo.
Mais
hein.
J'allais aussi beaucoup à mission. Et quand j'allais à mission, on voyageait ensemble. Ce qui étonnait même ses maîtresses, parce qu'elle n'était presque jamais là, mais quand elle rentrait, elle était première de la classe. Parce
ah oui. C'est ça, vous l'emmeniez et puis vous faisiez la classe le soir après le travail, en voyage alors.
Moi-même.
Bon, merci beaucoup Jean-Gustave en tout cas de nous avoir appelé. On a toujours des histoires comme ça, franchement, qui sortent de l'ordinaire, hein, comme quoi.
Encourage.
Tout à fait, qui encourage. Même si là, Jean-Gustave place la barre très très haut.
Oui.
Je sais pas si.
Mais des mamans font comme ça aussi. Il y a beaucoup de mamans qui font comme ça aussi, c'est vrai. Mais il y en a pas beaucoup, hein, effectivement, des hommes qui prennent le temps, qui se sacrifient comme ça pour les enfants. Il y en a pas beaucoup.
Mais je trouve que de faire ça, c'est important parce que ça les rend plus matures, les enfants.
Vous restez avec nous. Il faut qu'on parle des familles monoparentales et de la pauvreté parce qu'on l'entend aussi dans les témoignages. Parfois, il y a de grosses difficultés matérielles. On en parle juste après Stromae.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es?
Papa Outé, Stromae, bien sûr, 33 1 84 22 71 71. On a énormément de témoignages à propos du sujet de notre émission. Les mères célibataires, mais plus largement les familles monoparentales, on vient de l'entendre. Les papas solos sont largement minoritaires, mais on a entendu l'incroyable témoignage de Jean-Gustave au Cameroun. On accueille le témoignage de Corinne qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Corinne, vous élevez seule vos enfants, 15 ans, 11 ans, depuis qu'ils depuis qu'ils sont tout bébés, hein?
Oui, depuis que celui de 11 ans avait 8 mois à peu près.
Où est passé le papa?
Il a disparu.
Disparu.
On est plus ensemble, en fait.
D'accord.
Voilà, il n'a pas voulu assumer. Et donc, je me suis retrouvée seule avec les enfants. Et puis, bon, je gère.
Mais il a totalement disparu de la vie de vos enfants également?
Au départ, oui, mais après, il est réapparu, il les voit quand il y a les fêtes. Lui, c'est un musulman, il les prend souvent quand il y a les fêtes des musulmans, mais en dehors de ça, je les gère, quoi. Mais même quand il les prend pour les fêtes des musulmans, il les garde la journée, et le soir, il me les ramène.
Est-ce qu'il vous aide à élever vos enfants financièrement?
Ah non, pas du tout.
Le message que vous voulez faire
si
passer,
vous voulez,
Corinne.
Je permets que les enfants partent, aillent le voir dans l'intérêt et pour l'équilibre des enfants, c'est tout. Sinon, bon.
C'est souvent ça.
Il n'y a rien d'autre, quoi.
Corinne,
le début. Oui.
Oui, allez-y, Corinne.
Le début était difficile. Je déprimais, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et tout ça. Et puis, j'ai commencé à consulter un psychologue qui m'a dit, écoutez, si le monsieur, il a détruit déjà sa vie, alors, il ne faut pas lui permettre de détruire celle de tes enfants, de détruire les enfants. Donc, tu vas te battre et assurer, voilà. Donc, j'ai commencé, j'ai écouté ses conseils et j'ai commencé à me battre. Donc, j'ai beaucoup mis l'accent sur le boulot que je fais et je me suis dit, bon, si là-bas, ça ne marche pas, il faut que le boulot marche pour que... On a de l'argent pour s'occuper des enfants.
Comment vous vous sentez perçue, Corinne, à Abidjan, dans la société ivoirienne, en tant que maman solo depuis toujours, pratiquement?
Ça va, les gens... Bon, il y en a qui ont... je dirais 60% ont de l'admiration. Ils estiment que je suis une brave femme. Il y en a aussi qui disent, bon, ben, c'est son problème, il n'y avait qu'à bien choisir.
Elle n'avait qu'à bien choisir. Ouais. Merci Corinne de nous avoir appelé. Elle n'avait qu'à bien choisir. Il y a une forme de culpabilité qui retombe aussi parfois sur vous. Ça, vous pouvez le ressentir parfois.
Oui. Ça, c'était les premières années que je l'ai ressenti. Mais bon, maintenant, ça va beaucoup mieux. Et je me dis non, en fait, au final, quand on observe la société, on se rend compte que ça arrive. À tout le monde, que ce soit les parents, que ce soit les enfants sont encore petits ou même déjà adultes.
Hein. 2 millions de familles en France. Donc, voilà. Effectivement, donc il faut que... Alors, on va donner la parole à une dernière auditrice, Kelly. Kelly nous appelle au 33 hein, 84 22 71 71. Bonjour, Kelly.
Oui, bonjour.
Kelly, vous êtes à Bujumbura, au Burundi.
Oui.
Et vous nous appelez parce que vous êtes une maman seule.
Oui. Et le papa, il a disparu aussi comme pour les autres. Il est parti. J'ai fait contact et tout ça, mais il ne participe pas dans la vie pour que j'élève l'enfant. Et ce qui est le plus difficile, c'est la mauvaise foi, parce que c'est pas quelqu'un... Il y a quelqu'un, tu dis, voilà, OK, il n'a pas le moyen, il ne peut pas, voilà. Mais lui, c'est vraiment de la mauvaise foi, quoi.
Un sentiment d'injustice aussi pour vous. Merci, Kelly, de nous avoir appelé. Christine Kelly, vous êtes notre invitée. vous êtes la présidente de l'association Cas d'urgence et vous avez organisé cette journée consacrée aux familles monoparentales à Paris. Juste en quelques mots, on arrive vraiment à la fin de cette émission. Aujourd'hui, quelle est l'urgence pour ces familles? Un tiers des familles monoparentales n'ont pas suffisamment d'argent pour couvrir leurs dépenses, équilibrer leur budget selon l'INSEE. Elles sont beaucoup plus touchées que les autres familles par la pauvreté. Des femmes aussi qui ne parviennent pas à récupérer la pension alimentaire que devrait payer l'ex-conjoint. Aujourd'hui, quelles sont les urgences à votre sens?
Les urgences, déjà, c'est tout d'abord qu'on puisse reconnaître les familles monoparentales. C'est-à-dire qu'on a entendu les cas aujourd'hui où le père est parti. Alors qu'on est loin des clichés, ça c'est la réalité. Et la plupart des gens croient que ce sont des femmes qui ont décidé de faire un enfant seul. Et ça, franchement, le fossé, il est très très grand. On croit donc déjà à reconnaître l'existence de familles monoparentales en tant que victimes. Premièrement. Deuxièmement, reconnaître qu'elles ont besoin de ressources. Besoin de ressources, effectivement, c'est aider à la garde d'enfants, les aider à aller chercher un emploi, donc faire garder l'enfant. Elles sont plus actives que les autres sur le marché du travail. Donc il suffit de les aider un tout petit peu et elles trouvent un emploi beaucoup plus vite que les autres. Troisième point, la pension alimentaire. Aider à récupérer la pension alimentaire. J'arrive aujourd'hui à dire aux femmes, oubliez la pension alimentaire, concentrez-vous sur votre enfant, tellement aujourd'hui, juridiquement, il n'y a pas de moyens réels pour aider à récupérer la pension alimentaire. Heureusement, en France, les huissiers de justice peuvent gratuitement aider à récupérer la pension alimentaire, mais pas dans tous les cas. Donc, au niveau de l'État, ça serait bien qu'on puisse récupérer la pension alimentaire. Et dernier point, trouver des aides qui puissent réellement les aider parce qu'elles n'en ont pas. On croit qu'elles en ont, mais elles n'en ont pas.
Et partager, évidemment, ne pas se sentir seule. On peut aller sur votre site casdurgence.org. Merci à vous, Christine Kelly.
Merci
à vous, Gisèle Tada,
merci
aussi
beaucoup
d'être venue parler de votre histoire. Et puis merci à vous toutes, les voisines et les voisins, pour vos très beaux témoignages. Dans quelques instants, la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. C'est la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel, bonjour les auditeurs du monde.
On vous retrouve régulièrement chez 7 milliards de voisins. Vous dirigez la revue transculturelle L'Autre et nous parlons depuis plusieurs semaines de ces enfants qui circulent au gré des adoptions, des confiages, d'une famille à l'autre ou d'un pays à l'autre. Et cette semaine, on s'intéresse aux parents, les parents qui adoptent. Qu'est-ce qui peut être complexe, voire frustrant, voire douloureux, voire déstabilisant pour des parents contraints, souvent d'ailleurs, d'adopter des enfants.
Alors effectivement, il y en a qui rêvent depuis toujours d'adopter des enfants, et puis il y en a aussi qui sont contraints, c'est-à-dire que c'est la dernière possibilité pour avoir des enfants. Ils ont un désir d'enfant très fort qui est contrecarré par des obstacles, par des déceptions souvent aussi, parce que on n'a pas réussi à faire autrement, puis par des traumas, parce que c'est très violent d'être confronté comme ça à des parcours.
À l'impossibilité de procréer par soi-même.
Voilà, c'est des parcours des combattants, ils disent tous comme ça les parents, donc il y a vraiment quelque chose de très fort. Et une mère que j'ai rencontrée m'a beaucoup frappée, elle me disait, vous comprenez, être parent adoptant, c'est être des parents au carré.
Parents au carré,
oui. Multiplié par lui-même. Bah oui, parce qu'il y a une enquête, il y a des entretiens, on accepte, on vous donne un agrément, on ne vous le donne pas, vous avez l'impression de passer des examens. Et puis ensuite, il faut que tout se passe bien. Si ça ne se passe pas bien, on dit, mais oui, est-ce que vous êtes sûr que vous avez fait de la bonne manière? Être parent adoptant, c'est très, très, très exigeant. Il faut être assez courageux, je trouve.
Globalement, les parents culpabilisent toujours lorsqu'ils rencontrent des problèmes avec leurs enfants biologiques. C'est encore bien plus difficile pour des parents adoptants.
Oui, parce que les parents adoptants, c'est comme s'ils devaient faire la preuve. D'abord qu'ils veulent vraiment un enfant, puis ensuite qu'ils savent l'élever.
Donc c'est la culpabilité au carré.
Déjà que le métier de parent est un métier impossible, on le voit dans nos chroniques. Eh bien là, en plus, il y a le fait d'être obligé, d'une certaine façon, d'être presque surveillé, puisqu'il y a aussi toute cette période où quelqu'un va venir chez vous voir si tout se passe bien.
Ça veut dire que les parents adoptants se posent plus de questions que les autres, au risque parfois de perdre une forme de bon sens qu'ils ont automatiquement en tant que parents.
Alors, ils se posent plus de questions que les autres, peut-être, puisque pour eux, ça a été difficile. Donc, il en reste sans doute une inquiétude. Ils doivent s'adapter à un enfant qui arrive, alors qu'ils l'ont entendu longtemps, il arrive presque brutalement, quoi. Il n'y a pas de grossesse, bien sûr. On vous dit, voilà, ça va arriver. Donc, les processus ne sont pas préparés. C'est-à-dire qu'il y a une longue attente et puis, tout d'un coup, il faut tout de suite être prêt. Et donc, il y a des enfants qui ont été abandonnés, qu'il faut consoler, rassurer, à qui il faut donner ce dont ils ont besoin. Il faut s'adapter à cet enfant-là avec les inquiétudes. Il y a des enfants, parce qu'ils ont été abandonnés, qui vont pendant des mois, peut-être des années, avoir peur de s'endormir, avoir peur de manger tout seul. Enfin, il y a des tas d'inquiétudes.
D'autant
comme ça.
Plus qu'aujourd'hui, les enfants adoptables à l'adoption internationale arrivent de plus en plus âgés. On a de moins en moins de facilité, quand on est parent adoptant, d'avoir un tout petit bébé. On peut avoir des enfants qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire 8 ans.
Alors,
comment
oui,
on dépasse ces difficultés-là?
Il y a ce qu'on appelle les adoptions tardives, au-dessus de 3-4 ans. Et puis, il y a aussi les enfants que l'on adopte et qui ont des handicaps ou des difficultés. Donc, ce qui décuple la nécessité de bien s'adapter à cet enfant-là, à ce moment-là, de le faire avec le plus de tranquillité possible.
C'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui définit un bon parent adoptant ?
Un bon parent adoptant, c'est un bon parent. Mais en plus, c'est un parent qui va être capable de s'adapter à l'enfant avec sa singularité et avec sa vulnérabilité. Donc, c'est doublement un parent.
Merci à vous Marie-Rose Moreau, on vous retrouve très vite chez 7 milliards de voisins. D'autres sujets seront débattus, discutés, avec aussi parfois des conseils en prime pour les parents. On s'intéressera notamment à pourquoi les enfants mentent. Tiens,
question.
Les parents disent souvent le mensonge est l'arme des faibles, et pourtant vous nous expliquerez que le mensonge peut être aussi quelque chose d'assez utile et naturel aux enfants, je ne sais pas. À très vite. Et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Sigrid Azéroal, Romain Dubrac, Marion Goubard. Toutes nos émissions sont en libre service sur l'appli RFI Pure Radio. Il suffit de cliquer sur magazine et bien sûr, vous partagez nos discussions. Lundi, 7 milliards de voisins, on parlera des femmes trentenaires qui subissent la pression de la maternité entre horloge biologique, carrière et ces petites phrases du style « Et toi, tu t'y mets quand, au fait ?» Eh bien justement, comment trouver le bon moment? Appelez-nous les voisines si vous ressentez cette question pressante. 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le numéro de téléphone, WhatsApp et bien sûr tous vos messages, privés ou pas d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. À lundi.